Bien, ce soir nous allons reprendre notre texte biblique dans l'épître aux Philippiens. Alors c'est vrai que vous avez peut-être pensé que je m'attarde beaucoup sur quelques versets, mais ces versets sont d'une densité telle qu'il est difficile de les lire d'un trait sans s'arrêter presque à chaque mot. Parce que nous découvrons dans les mots et dans des expressions et même dans des courtes phrases, on découvre toute une doctrine et même parfois tout un enseignement que nous n'aurions même pas supposé si on ne s'y attardait pas. Mais c'est vrai que j'ai lu l'Épître aux Philippiens des dizaines et peut-être des centaines de fois, parce qu'à une époque je lisais Philippiens et Colossiens tous les jours. Comme j'avais découvert que je pouvais lire en 20 minutes Philippiens et Colossiens, 20 minutes Philippiens, 20 minutes. Donc c'était pour moi une joie et un plaisir et un bonheur de les lire, et je me réjouissais de recommencer encore et de relire, parce qu'il y a tellement de choses, tellement que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors c'est pour cela que dans ces quelques versets, dans l'Épître aux Philippiens, il y a deux passages qui ont une pareille densité. Celui-là, c'est le deuxième. On a vu un petit peu l'autre qui est au chapitre 2. Mais celui-ci, eh bien, il est parlé de Jésus-Christ et de Jésus-Christ et de Jésus-Christ et de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Philippiens et Colossiens sont des épîtres qui nous parlent particulièrement de Jésus-Christ. Les autres épîtres et toute la Bible nous parlent de Jésus-Christ, bien entendu. Et nous savons très bien que la Bible est christocentrique. C'est une expression de théologie. Quand j'étais à l'Institut biblique, on m'a dit « La Bible est christocentrique ». Voilà. Bon, alors je vous le répète, parce que c'est la vérité et parce que ça mérite d'être dit. Mais les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens sont particulièrement christocentriques, c'est-à-dire qu'elles tournent de très près autour de Jésus-Christ. Et certains passages tournent encore plus près. C'est-à-dire que si vous aviez des cercles, eh bien, certains passages de Philippiens et de Colossiens sont tellement près du centre, tellement près de Christ, que chaque mot nous enseigne quelque chose de nouveau sur Jésus-Christ, quelque chose de particulier, un aspect qui nous émerveille et qui nous rassure et qui nous console. Alors c'est pour cela que depuis déjà quelque temps, nous sommes dans la méditation de ces quelques versets du chapitre 3 et les versets 7 à 14. Donc nous allons les lire. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et vous avez là donc, comme nous avons vu, que Christ est le centre, Christ est la première personne dans notre vie, c'est celui autour duquel doit tourner toute notre vie. Quand nous considérons la vie chrétienne, elle ne peut pas se passer sans Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ont une vie chrétienne qui tourne autour de multitudes de choses. Alors des choses bonnes, des choses même très bonnes, excellentes, mais ce n'est pas le meilleur, parce que le meilleur, c'est Jésus-Christ. Vous pouvez être un grand prédicateur, un grand missionnaire, un grand, tout ce que vous voulez de bon, d'acceptable, de parfaitement bien, vous avez peut-être manqué Jésus-Christ. Et c'est parfois le drame d'une vie de pouvoir dire « j'ai fait des multitudes de choses ». Il y a des personnes qui se sont dépensées à droite à gauche et qui ont fait des multitudes de choses, mais ils ont perdu l'essentiel. Et c'est ce que le Seigneur Jésus disait à ses disciples. Il a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? C'est dans la vie d'un chrétien, il doit y avoir Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est notre nourriture. C'est lui qui est notre bien le plus précieux. C'est celui qui remplit toute notre vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un jeune homme et une jeune fille qui se fréquentaient. Voilà, hein, c'est quelque chose de tout à fait normal, naturel, et c'est quelque chose que l'on voit presque chaque fois que nous sortons, on rencontre un jeune homme et une jeune fille qui se tiennent par la main, et c'est une très bonne chose. Mais ces deux personnes étaient chrétiennes toutes les deux. Le jeune homme avait décidé de mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie. C'est Jésus-Christ qui prenait la première place dans sa vie. Et il avait même décidé une chose, c'est que la jeune fille, il aimerait, comme Christ, aimer l'Église. Parce qu'il y a un très beau passage dans Philippiens, dans Éphésiens, qui nous parle de cela, hein, par rapport au mariage. Il dit, comme Christ a aimé l'Église, l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église, qui s'est donné pour elle, qui s'est livré lui-même pour elle. Hein, voilà. Donc il avait pris cette décision. Mais la jeune fille, elle, il y avait des multitudes de choses qui l'intéressaient. Alors, je vous raconte, je donne le beau rôle au garçon et le mauvais rôle à la jeune fille, parce que c'est une histoire vraie et que c'est quelque chose qui s'est passé. Donc, je vous parle de personnes, je ne cite pas les noms. Et alors, le jeune homme était un peu frustré parce que la jeune fille, c'était un jour oui, un autre jour non. Voilà. Alors, puis un jour, ça marchait d'une manière très bancale. Et puis un jour, la jeune fille, a été étrangère. Elle lui a dit, écoute, je rentre dans mon pays. Alors, elle lui a dit, je reconnais que avec toi, j'ai découvert l'amour, le véritable. Et elle a dit, jamais je rencontrerai un homme qui m'aimera comme toi. C'est certain. Mais je rentre dans mon pays, je veux plus vivre cette histoire. Donc, elle a mis la fin à cette chose-là. Et le jeune homme, tout simplement, lui a dit, écoute, je t'attendrai. Voilà. Comme il voulait l'aimer comme Jésus-Christ, Jésus-Christ nous attend toujours, il a dit, je t'attendrai. Et la jeune fille lui a dit, n'y compte pas. C'est un non définitif. Il a dit, je t'attendrai toute ma vie. Alors, la jeune fille est partie. Et c'est finalement, ils ont tenu parole tous les deux. La jeune fille n'est jamais revenue. Et le jeune homme l'a aimée. Sans pas eu d'autre, il a oublié toutes les jeunes filles qui pouvaient faire sa vie avec une autre, il a tout oublié. Et il a attendu, attendu, attendu. Il a attendu 6 ans. Vous imaginez, 6 ans. Il n'a pas attendu toute sa vie pour une raison. Parce qu'un jour, il a appris que la jeune fille s'était mariée. Alors il s'est dit, je ne peux pas aimer la femme d'un autre. Donc c'était terminé. Il a terminé là son histoire. Voilà. Et donc, je vous ai raconté cette petite histoire pour vous montrer qu'il y a des pertes. Quand on veut marcher avec le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu et nous lisons que quand on se marie, il est bon de se marier. Et même c'est non seulement bon et recommandé, mais c'est même un commandement de Dieu de se marier entre chrétiens, entre personnes nées de nouveau, réconciliées avec Dieu. Mais même quand deux personnes sont nées de nouveau et réconciliées avec Dieu, il y a une différence. Il y a des personnes qui veulent vraiment marcher avec Christ et d'autres qui veulent suivre le monde. Oh, la jeune fille ne faisait rien de mal. Elle faisait exactement ce que font beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire que Jésus-Christ ne prenait pas la première place dans sa vie. Donc il y avait avec le jeune homme un conflit perpétuel, une opposition. Et elle ne se sentait pas à l'aise avec lui. Bien sûr, elle était au bénéfice, elle a pu lui dire que jamais elle rencontrerait quelqu'un qui l'aimerait comme ça. Et c'était vrai. Mais elle a préféré quelqu'un qui l'aimait moins à quelqu'un qui marchait avec Christ. Parce que marcher avec Christ, c'est un combat, c'est une lutte, c'est difficile. Mettre Christ au centre continuellement dans sa vie, c'est et renoncer constamment. Il y a des tentations, il y a des épreuves, il y a des moments où les choses ne se passent pas comme on voudrait. Et le jeune homme a sans doute éprouvé l'amertume, hein. Il a voulu marcher avec Christ et son histoire n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi parce qu'il a voulu marcher avec Christ. Ce sont des choix difficiles. Et Satan vient vous dire, mais abandonne un petit peu. Laisse là, ne regarde pas de trop près. Ne fais pas attention à cette chose-là. Ça, ce n'est pas la chose. Tu en fais trop. Si tu veux réussir ta vie, eh bien, ne sois pas aussi méticuleux dans ta communion avec Christ. Ne sois pas aussi méticuleux dans ta vie chrétienne. Et en fait, eh bien, le jeune homme a raté sa fréquentation. Mais beaucoup de personnes, parce qu'ils ont voulu marcher avec Christ, ont raté des choses que ce monde pouvait leur offrir. Ils ont raté parfois d'avoir une belle maison. Ils ont raté parfois d'avoir un beau travail, bien rémunérateur. Ils ont raté l'occasion d'être ceci ou cela parce qu'ils ont choisi Christ. Christ comme seul ancre de leur âme, le seul but de leur vie, leur seule aspiration. Et vous savez, cela remplit une vie. C'est d'être toujours à l'écoute de Christ et de marcher dans sa communion et de vivre pour lui et de se dire, c'est Christ. Et Paul pouvait dire, hein, on l'a déjà vu dans l'Épître aux Philippiens, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est-à-dire qu'il avait choisi Christ et tout ce qui le rapprochait de Christ, c'était le meilleur. Donc c'est cela qui est important dans la vie chrétienne, de marcher avec Christ, de vivre pour Christ. Christ au centre de notre vie. Christ celui qui remplit notre vie, celui qui est notre espérance, celui qui est notre joie, celui vers qui nous nous tournons dans toutes les circonstances, celui au nom duquel nous prions, celui vers lequel duquel nous attendons la réalisation des promesses, celui qui nous a parlé, celui qui nous console, celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie, celui qui nous tient la main, celui qui a fait des promesses d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », tout tourne autour de Jésus-Christ. Et je peux vous dire, il y a deux manières de vivre la vie chrétienne. Il y a la bonne, il y a la mauvaise. Et c'est un choix. Quand nous devenons chrétiens, que nous sommes nés de nouveau et réconciliés avec Dieu, c'est un pas décisif. Mais ensuite, il y a la marche. Et la marche, eh bien, c'est de marcher avec Christ. Et nous ne pouvons pas marcher avec une main avec Christ et une main dans le monde. C'est vrai que nous devons vivre au milieu de ce monde et nous sommes obligés de travailler, de gagner notre vie et de faire des multitudes de choses. Mais toutes ces choses se font dans la lumière de Christ. Et il y a des choses même que nous ne pouvons plus faire. Vous dites ça, ce n'est pas pour moi. Peut-être pour d'autres, mais pas pour moi. J'ai décidé de marcher avec Christ. Et c'est vrai que c'est un combat. Et c'est vrai que cela ne se gagne pas du premier jour, hein. Quand on accepte Jésus-Christ comme son sauveur, c'est en une seconde, hein. Je ne sais même pas, je fixe une seconde, ça peut être. Il y a un moment où nous sommes perdus et un moment où nous sommes sauvés. On passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est comme vous êtes dans la lumière, vous éteignez vous êtes dans l'obscurité, vous rallumez, vous êtes dans la lumière. Et quelle est la fraction de seconde? C'est difficile à calculer. Il y a sans doute du temps, mais bon, c'est tellement faible qu'on peut se dire il n'y en a pas. Mais la vie chrétienne, c'est toute la vie. À partir du moment où nous sommes sauvés, il y a une marche avec Christ. Nous vivons avec Christ. Nous marchons avec Christ. Nous vivons pour Christ. Christ est celui qui remplit notre vie. C'est selon sa lumière et avec lui et dans sa communion que nous accomplissons des multitudes de choses que lui nous demande et nous dit, va dans cette direction, fais ceci, fais ça. Et c'est comme cela que nous pouvons dire, mais dans cette situation-là, j'ai été conduit par le Seigneur. Et on a reconnu, et les gens disent, mais ça, ça procédait de Dieu. C'est Dieu. J'ai lu une belle phrase hier. Cette affaire procède de l'Éternel. Et je me suis dit, tiens, ça c'est beau. Cette affaire procède de l'Éternel. Il y a la main de Dieu dans cette histoire-là. Et l'homme n'est plus celui à qui on peut donner les honneurs, mais les honneurs reviennent à Christ. Parce que c'est une marche avec Christ. C'est conduit par Christ. C'est inspiré par Christ. C'est Christ qui en est l'auteur. C'est Christ qui a rempli la chose. C'est Christ qui en a toute la gloire. Si nous réussissons par nos propres efforts, à qui la gloire? À l'homme. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Que Christ soit glorifié ou que vous soyez glorifié? Qu'est-ce qu'on aime que notre nom soit cité? Hein? Voilà, dans cette situation, ben, j'ai rencontré un tel, il m'a dit ceci et il a fait ça et nous avons parlé et voilà, moi je suis, voilà, c'est petit moi est content. Mais dans toutes ces choses, quand nous sommes conduits par Christ, les gens ne voient même pas que c'est Christ, que c'est nous, mais ils ont vu Christ. Et c'est ce qui était remarquable quand les apôtres, hein, ont été jugés par le Sanhédrin. Ils étaient au milieu du peuple, disons de ces hommes qui les jugeaient. Ils avaient été pris du peuple et on les avait amenés devant le Sanhédrin. Et on leur a posé des questions et ils ont répondu avec beaucoup de sagesse. Et on les a reconnus comme avoir été avec Jésus. Et je pense que c'est cela. Les gens doivent reconnaître que nous marchons avec Christ, qu'il y a une communion avec Christ, que les paroles que nous disons, que ce que nous lisons, ce que nous... C'est Christ. Et c'est quelque chose de merveilleux, vous savez. C'est là que ce que nous faisons est durable et solide, quand c'est bâti sur Christ. Ce n'est pas basé sur nos raisonnements humains, sur notre sagesse humaine, sur notre énergie humaine, sur nos capacités humaines. C'est basé sur Christ. Et c'est là que les choses sont dans l'essentiel, dans le plus important. Et donc, Paul pouvait dire, et au verset 9, « Et d'être trouvé en lui. » Être trouvé en lui. Les gens doivent voir en qui nous sommes. Être trouvé en lui. Les gens nous voient. Ils nous voient vivre. Ils nous voient marcher. Ils voient ce que nous faisons. Ils voient comment nous parlons. Ils voient comment nous réagissons. Et c'est Christ qu'ils voient. C'est en lui. Et Paul disait aux Corinthiens, il dit, je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ. C'est de lui qu'il parlait. Et c'est quelque chose de merveilleux d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Parce que là, Paul était un juif très méticuleux. Il avait observé la loi de Moïse le plus scrupuleusement possible. Et même inspiré par le Saint-Esprit, dans cette même épître, il peut dire « irréprochable à l'égard de la justice de la loi ». Irréprochable. C'est inspiré par le Saint-Esprit, il n'y a aucune vantardise, il n'y a aucune exagération. C'était vraiment ce qu'était Paul, un homme exact dans l'observation de la loi de Moïse. Il avait observé scrupuleusement la loi de Moïse. Et donc, si quelqu'un pouvait se vanter d'être juste par rapport à la loi de Moïse, c'était Paul. Il pouvait le dire. C'était la vérité exacte. Mais ici, au verset 9, il dit être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. C'est que les gens ne me voient pas moi, qu'ils ne voient pas mes résolutions, qu'ils ne voient pas mes capacités, mais qu'ils voient Christ, la justice de Christ. C'est juste de la justice de Christ. C'est-à-dire que les gens ne voient pas mes capacités humaines à réussir la vie chrétienne ou à réussir quelque chose, mais qu'ils voient la justice de Jésus-Christ, qu'ils voient combien Jésus-Christ est grand. Combien il est suffisant, combien il est celui qui remplit une vie, combien il est celui qui soutient et qui fortifie. Que les gens puissent voir Christ. C'est ce qui donne le bon goût d'une vie chrétienne, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Christ. Si nous n'avons pas Christ, Nous sommes fades, sans intérêt. À quoi nous allons amener les gens? À des principes? À de nouvelles idées? À une manière de faire? Une manière de vivre? Cela ne peut être, on peut dire, même c'est la vérité, mais ce n'est pas inspiré par Christ. Et cela ne donne pas de la conviction que ce que nous disons, eh bien, c'est la vérité. C'est, les gens nous voient vivre et disent « Ah ben, il est particulier celui-là. Ah ben, il ne ment pas. Ah, il ne fait pas ceci, il ne fait pas ça. » Mais en fait, les regards sont attirés sur nous. Mais quand c'est Jésus-Christ qui vit en nous, qui est manifesté, c'est la justice de Christ qui est vue. Ce n'est pas la nôtre. Les gens nous voient justes de la justice de Christ. Et c'est ce qui attire, parce que Christ est irrésistible. Et nous disons, mais ce monde n'entend pas l'évangile, le monde ne veut pas de l'évangile, le monde ceci, le monde cela. On critique tellement souvent le monde, mais le monde, c'est le monde. Il a toujours été le monde. C'est le monde des Romains ou le monde du 20e ou 21e siècle. La différence vient, c'est seulement les coutumes qui sont différentes et les vêtements qui ont changé. Mais les gens sont strictement les mêmes. Ce sont les mêmes péchés, ce sont les mêmes débordements, ce sont les mêmes passions qui soutiennent ce monde. Mais ce qui a changé le monde des Romains, c'est l'Évangile. Ce sont des chrétiens qui vivaient Christ. Et ils ont vu Christ. Et quand ils ont vu Christ, ils ont été attirés par Christ. Ils n'ont pas été attirés par de nouvelles idées. Les nouvelles idées, ils les rejetaient. Cette nouvelle idée, ils l'ont rejetée. Hein. Les Romains étaient capables de tout accepter. S'il y avait une nouvelle religion, il n'y a pas de problème, ils l'acceptaient. Ils avaient même des temples, un temple qui est le temple à tous les dieux, hein, c'est le Panthéon. Donc ils avaient le temple à tous les dieux. Donc on ne peut pas être plus large que ça. Mais le dieu qui disait « il n'y a pas d'autre dieu que moi » et tous les autres dieux sont des faux dieux, ce dieu-là était inacceptable parce qu'il rejetait le Panthéon. Alors ils l'ont rejeté ce dieu-là. Mais ce dieu, ils l'ont vu dans les chrétiens. Et quand les chrétiens souffraient pour leur foi, eh bien, les Romains se disaient, mais il y a quand même quelque chose de différent chez eux. Et plus les chrétiens étaient persécutés, et plus des personnes se convertissaient. Ils allaient dans les jeux du cirque, ils voyaient les chrétiens jetés aux lions, ils les voyaient souffrir pour Christ, avec des cantiques, avec la joie de Christ. Ils se disaient, mais c'est pas possible. Qui est capable de faire une chose pareille? Il y a quelque chose de différent chez ces gens-là. Et c'était le meilleur moyen d'évangéliser, c'était les persécutions. Et c'était les persécuteurs eux-mêmes qui faisaient en sorte que ceux qui assistaient, eh bien, se convertissaient. Et quand ils sortaient du cirque, ils disaient, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ce qu'ils avaient vu, c'est Christ. Et Christ fait envie. Christ donne soif. Christ altère. Et non seulement il altère la personne qui regarde un chrétien vivre, mais il est celui aussi qui désaltère. Celui qui a soif de Christ, eh bien, il y a la seule source qui rassasie et qui remplit, c'est Jésus-Christ. C'est exactement ce que ces chrétiens étaient. Et vous pouvez analyser, certains l'ont fait, hein, il y a des thèses qui ont été écrites sur l'évangélisation en Union soviétique, en Chine, et chez les Romains et à d'autres endroits où les chrétiens étaient persécutés, et combien les gens se convertissaient. On se dit, mais c'est pas possible, comment ? Au cours d'une persécution où les chrétiens étaient mis à mort, étaient jetés dans les prisons, étaient dans les concentrations, ils étaient interdits de lire la Bible. Il n'y avait pas de Bible même. Très difficile d'avoir la Bible. Très difficile de témoigner, de parler. Eh bien, les gens se convertissaient. Et on s'est rendu compte qu'il y a à peu près, dans les persécutions, 10% de la population qui devient chrétienne à la fin de la persécution. C'est la marche plus ou moins normale. Mais parce que les gens voient Christ vivre. Ce que les gens veulent voir, c'est Christ. Ils ne veulent pas voir notre justice. Ils ne veulent pas voir combien nous sommes bien, combien nous sommes merveilleux, ils veulent voir Jésus-Christ vivre en nous. Et Paul nous dit hein, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et c'est un acte de foi. Alors c'est vrai que nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes. Quand Jésus-Christ nous a lavés de nos péchés, nous sommes devenus justes, de la justice de Jésus-Christ. Donc il n'y a plus de condamnation sur nous. Mais nous devons marcher dans la justice. Et les gens doivent continuer à voir cette justice qui nous est imputée. C'est la justice de Christ en nous. Ils doivent voir quelque chose. Il y a quelque chose de différent. Nous ne sommes pas les mêmes. Il y a autre chose que ce que propose ce monde. Après, vous avez des gens qui ont réussi à conformer leur vie. Comme disait quelqu'un, ils sont les bourreaux de leur corps. Hein? C'est par rapport au bouddhisme et au brahmanisme. Hein? Quelqu'un a dit, ces gens-là sont les bourreaux de leur corps. Et ils sont tellement pressurés, tellement avides d'une certaine sainteté qu'ils se martyrisent et qu'ils se font des multitudes de souffrances, s'imposent des souffrances. Et il y a des changements, mais ces changements ne convainquent pas. On n'a pas envie d'être, pouvoir tenir dans un bain glacé ou se marcher sur des charbons ardents ou des choses comme cela. Ça ne passionne pas, mais la vie chrétienne, cette vie de tous les jours, cette marche dans la lumière, cette vie où Jésus-Christ prend la première place, où il est vraiment celui qui est le Seigneur de notre vie, celui en qui nous plaçons notre confiance, celui qui nous rassure et nous console, celui qui nous soutient et nous fortifie, celui qui est notre joie, celui qui est notre paix, celui vers qui nous regardons, celui qui fait rayonner notre visage. C'est, les gens disent, il y a quelque chose de différent. Et c'est cela qui convainc. Après, il y a nos paroles. Parce qu'il y a notre témoignage visible, mais il y a aussi nos paroles. Et les gens disent, oui, j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose de différent. Il y avait quelque chose de différent. Parce qu'ils ont vu la justice de Christ en nous. Mais nous marchons par la foi. Et nous nous confions que la justice de Christ est réelle dans notre vie et qu'elle va se voir. Mais nous n'avons pas besoin de nous imposer une manière d'être, une manière de faire pour convaincre les gens que nous sommes des bons et que cette fausse humilité ou ce véritable orgueil, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais, ou cette fausse piété ou ce pharisaïsme, ce légalisme, toutes ces choses, c'est de la contrefaçon. Mais quand Jésus-Christ remplit notre vie et que nous marchons avec la justice de Christ par la foi, eh bien, il y a quelque chose de différent, quelque chose qui se voit. Et c'est cela qui convainc. Et quand nous parlons, les gens disent, en effet, je vois qu'il y a quelque chose de différent.